Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Nous y voilà, c'est notre dernier rendez-vous de la semaine. Bon réveil dans votre petit matin ce vendredi. On part à la recherche de trésors enfouis. Vous avez sorti votre chapeau Fedora ?
Votre
lasso ?
C'est un peu tôt.
Le fouet ?
Le fouet, toujours, en toutes circonstances. Ne me quitte jamais. Ce week-end, c'est les journées européennes, quand même, de l'archéologie.
Bah oui, c'est pour ça qu'on en parle. Pour les Indiana Jones en herbe, les passionnés et les novices, chantiers de fouilles, musées et laboratoires ouvrent leurs portes pour présenter cette vaste discipline scientifique riche de nombreux métiers. Tous les enfants, ou presque, rêvent de devenir archéologues. Nous serons avec Dominique Garcia, c'est son cas. Et il sera avec nous à 5h45. Il est le président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. À la une, ce 17 juin, Julien.
La canicule qui s'intensifie, 18 millions de Français sont désormais concernés par les vigilances. Elles sont de deux couleurs, rouge pour 12 départements du sud-ouest à partir de ce vendredi 14h et orange pour 25 départements allant du sud du pays jusqu'au Morbihan. C'est très vaste, c'est très large. Les précisions dans une minute de notre experte Anissa Haddadi.
Votre invitée à 6h10, Julien.
Laurence Denerveau, c'est la directrice du think tank Destin Commun, à l'origine d'une enquête passionnante sur les abstentionnistes. Ils étaient plus d'un électeur sur deux lors du premier tour des législatives et on s'oriente vers la même chose pour le second dans deux jours, dimanche.
D'où cette expression qu'on entend souvent de premier parti de France.
Oui, expression qui en dit long sur notre état d'accoutumance. Il faut dire qu'élection après élection, l'abstention bat des records, ce qui soulève tout un tas de questions sur lesquelles s'est penché notre invité. Qui sont réellement ces personnes qui boudent les urnes ? L'abstention a-t-elle de multiples visages ? Sévit-elle dans tous les milieux sociaux ? Et puis quels en sont les ressorts principaux ? Que reprochent les abstentionnistes au système politico-médiatique ? Rendez-vous donc à 6h10. Et puis juste après, on écoutera ensuite votre partition.
Avec David Bowie qui nous présente son avatar intergalactique. Ziggy Stardust a 50 ans et il sera dans la partition à 6h20.
Vous avez l'essentiel du programme, soyez tous les bienvenus. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce alors ?
Oh là oui! Qu'est-ce qu'il va faire chaud aujourd'hui et demain seront les plus chaudes journées de cette vague caniculaire avec 25 départements en vigilance orange canicule et surtout, et c'est très important, 12 départements en vigilance rouge. Je vais vous les donner parce que c'est très important. Si vous vivez dans ces départements, la journée sera torride aujourd'hui. Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime, Charente, Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, la Tarn-et-Garonne, le Tarn, la Haute-Garonne et le Gers. Dans tous ces départements, la journée s'annonce très difficile avec 41 degrés annoncés à Carcassonne et à Nîmes où il devrait faire 25 degrés normalement, 40 à Albi, 39 à Bordeaux et Montpellier, 38 pour Brive, 37 à Rennes, 36 à Lyon, 35 pour Paris, 34 à Quimper et Clermont-Ferrand, 33 à Lorient et Lille, ça augmente partout, hein. 31 au Havre, 30 à Nice, 26 à Cherbourg. Et ce ne sont pas encore les maximales prévues. Nous allons vivre demain, samedi, des records de chaleur dans le ciel. J'ai pas grand-chose à vous signaler, à part un ciel bleu azur, un soleil
avec
radieux.
Avec un gros rond jaune au milieu.
Avec un gros rond jaune qui va taper fort. Et puis, des orages qui commencent à arriver sur les Pyrénées cet après-midi.
Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Et à la une de ce vendredi, l'Europe au chevet de l'Ukraine. Emmanuel Macron et les dirigeants allemands, italiens et roumains ont visité hier à Kiev. Comment ce déplacement a-t-il été perçu par les Ukrainiens ? Reportage dans un instant avec notre envoyé spécial. Dernier jour de campagne avant le second tour des législatives dimanche. La coalition présidentielle menacée par la NUPES tente de convaincre pour conserver la majorité absolue. Nous avons suivi les derniers tractages du marcheur Stanislas Guérini, candidat à Paris et ministre en sursis. Et puis, Anissa nous le disait un instant, 12 départements en vigilance rouge canicule, 25 en orange. Illustration en Haute-Garonne où les seniors font l'objet d'une attention particulière.
Europe Matin, Omblin Roche.
Roche et Julien Pierce.
Et à 5h, le journal, c'est avec Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Visite historique en Ukraine hier. Emmanuel Macron et les dirigeants allemands, italiens et roumains ont rencontré Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Tous les quatre se disent prêts à donner immédiatement à l'Ukraine le statut de candidate à l'Union européenne et assurent qu'ils la soutiendront militairement aussi longtemps que nécessaire. Une solidarité affichée sur grand écran. Mais cela suffira-t-il pour se réconcilier avec le peuple ukrainien? Le reportage de notre envoyé spécial Europe 1 à Kiev, Nicolas Tonev.
Il a son plan pour nous faire perdre du territoire.
Centre de Kiev, à quelques pas de Maïdan, symbole de l'indépendance, pas plus sceptique que Yevgeny. Quoi qu'il fasse, pour lui, Emmanuel Macron porte le péché originel de ses propos sur la Russie.
On attend quelque chose de l'Estonie, de la Pologne. Mais de l'Europe de l'Ouest, on voudrait vraiment qu'ils soutiennent l'Ukraine. On veut des faits.
Quelques mètres plus loin, Tania se veut plus mesurée. L'étudiante a suivi la visite sur ses réseaux sociaux. Pour elle, il y a du progrès, mais là encore, l'élève français pourrait faire plus.
Le fait d'être venu ici, d'être allé à Irpin, ce sont des signes d'attention forts envers nous. Mais pour les armes, ce n'est pas assez. On a besoin de beaucoup plus.
Pour les Ukrainiens, la guerre a commencé en 2014 avec la prise de la Crimée par la Russie. Alors ce ne sont pas 4 mois de déclarations depuis l'offensive de fin février qui édifie leur scepticisme, mais déjà plus de 8 années de discussions sur le sort du pays, comme le résume Victor.
On va voir quelle sera l'issue. Il est bien trop difficile de le dire à l'avance. Au début, ils disent une chose, ensuite une autre. Les Ukrainiens attendent cette bienveillance, mais tant qu'elle n'est pas là, il est difficile de juger.
Et tous de souligner qu'ils comptent avant tout sur le soutien et l'aide américaine. À Kiev, Nicolas Tonev, Europe 1.
Mauvais timing, fustige l'opposition qui réagit d'ailleurs à la visite d'Emmanuel Macron en Ukraine alors que nous sommes à 2 jours du second tour des législatives. Jean-Luc Mélenchon s'interroge sur le sens de ce voyage. De son côté, Marine Le Pen estime qu'il se sert de sa posture de chef de guerre pour tenter d'avoir une influence sur les législatives.
La tension, on le comprend, est à son comble alors que la campagne prend fin ce soir. Alors les candidats et leur soutien ont jeté leur dernière force hier dans la bataille.
Le stress monte dans certaines circonscriptions comme dans la 3e de la capitale. Stanislas Guérini y est candidat, arrivé derrière la représentante de la NUPES au premier tour. Député sortant, ministre de la fonction publique et délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini, qui joue sa place au gouvernement, n'est pas assuré de gagner, Jacques Serey.
Oui, c'est une triple casquette qui fait de lui une cible de choix pour l'alliance de gauche. Stanislas Guérini le sait, mais dans cette dernière ligne droite, tract en main à la sortie du métro, le patron du parti présidentiel refuse d'afficher une quelconque fébrilité.
Je suis combatif parce que une élection, ça se gagne en montrant qu'on a envie. Et moi, j'ai envie de continuer. Moi, je suis assez convaincu que dans notre circonscription, il y a une majorité pour l'Europe, il y a une majorité pour le travail, il y a une majorité pour l'ordre. Qui me permettra d'aller convaincre, de rassembler largement dimanche soir.
À quelques rues de là, la candidate de l'Alliance de gauche, Léa Balagel-Mariki, est elle aussi en pleine opération tractage. Membre d'Europe Écologie Les Verts et élue du 18e arrondissement, elle ne veut pas faire de son adversaire un symbole.
Que ce soit Stanislas Guérini ou quelqu'un d'autre qui se présente, j'irai avec la même envie de gagner pour avoir une victoire qui nous permette d'aller mettre en place la rénovation thermique des logements. En fait, là, dans nos logements, on ne peut plus dormir parce que cette nuit, il va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chaud.
Deux candidats qui ne s'invectivent pas à distance, mais qui revendiquent des projets radicalement différents aux électeurs de trancher.
Merci Jacques Serey du service politique d'Europe 1. Et pour cette dernière journée de campagne avant le second tour, dimanche, Adrien Quatennens, député du Nord, coordinateur de la France Insoumise, est l'invité de Dimitri Pavlenko tout à l'heure à 8h13.
L'actualité ce matin, à 5h passées de 5 minutes, ce sont aussi, vous le sentez, ressentez dans votre chair, ces 37 départements en vigilance canicule, un tiers du pays, soit 18 millions de personnes sous une chaleur de plomb.
Vigilance rouge à partir de 14h dans 12 départements, allant de la Vendée au Tarn, où les écoliers et collégiens peuvent rester chez eux aujourd'hui. Orange pour 25 autres qui s'étendent du Morbihan à la Drôme.
C'est d'ailleurs la 4e fois depuis la canicule historique de 2003 qui avait fait 15 000 morts qu'une vigilance rouge est activée.
Et pour ne pas que le même scénario se reproduise à Muret, en Haute-Garonne, le Centre communal d'action sociale contacte quotidiennement les plus de 65 ans inscrits sur un registre. Le reportage de notre correspondant Benjamin Péter.
Bonjour, c'est le CCAS de Muret. Je vous appelle dans le cadre de la canicule.
Cindy travaille au centre communal d'action sociale. Elle appelle Alexandre, 79 ans, pour s'assurer qu'il va bien.
Tout va bien, j'ai fermé mes volets, voilà.
Vous êtes au frais, vous êtes équipé
ventilateur.
Oui, un ventilateur.
Cindy consigne toutes les réponses. Y a-t-il de l'eau à disposition? Des proches peuvent-ils rendre une visite régulière? Pour Françoise, 84 ans, c'est un dispositif qui tranquillise.
C'est la première année que je le fais parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Donc je me suis dit, il faut quand même prendre des précautions. Ça rassure parce que je sais que si je réponds pas, on va s'adresser ailleurs, quoi.
Une soixantaine de personnes sont inscrites sur ce registre communal et sont appelées quotidiennement. Mais pour Céline Giacomelli, la directrice adjointe du CCAS, c'est tout le pôle social qui est mobilisé.
Nous avons des aides à domicile qui interviennent à domicile. Nous avons également du portage de repas. Le livreur, tous les jours, peut s'assurer du bien-être de la personne. Nous avons vraiment une vigilance sur à peu près 300 personnes.
Et si ce dispositif concerne les personnes âgées, ils invitent aussi les familles qui pourraient être en difficulté à les contacter pour leur prodiguer des conseils ou leur indiquer les points d'eau ou les salles municipales climatisées. À Muret, Benjamin Péter, Europe 1.
Et un numéro gratuit Canicule Info Service est aussi activé au niveau national, joignable au 0800 06 66 66 0800 06 66 66.
Près de trois semaines après la finale de la Ligue des Champions et ces débordements chaotiques aux abords du Stade de France, un premier bilan a été dévoilé hier.
Les sénateurs se sont directement rendus à Saint-Denis, où se trouve le Stade de France, pour y présenter leurs conclusions. Et pour eux, la préfecture de police n'a pas joué son rôle ce soir-là. Johan Tritz.
Tout cela donne l'impression qu'il n'y a pas de responsable, et puisqu'il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de coupable.
Laurent Lafon, sénateur membre de la délégation, déplore la suppression des vidéos de surveillance du Stade de France, mais cela ne l'empêche pas de donner son suspect numéro 1, la préfecture de police, avec à sa tête Didier Lallement, pointé aussi du doigt par Jean-Noël Buffet, président de la commission des lois au Sénat, notamment sur la gestion de la délinquance autour de l'enceinte.
Son choix était d'abord la gestion des supporters et pas la délinquance. Sur le site. C'est incontestablement un choix qu'on ne peut pas considérer comme étant un bon choix.
Les deux sénateurs fustigent aussi le manque de préparation pour l'événement, une improvisation catastrophique, mais aussi un certain nombre de décisions prises ou pas d'ailleurs, comme ne pas mettre de panneaux pour réguler les flux, pourtant proposés par la Fédération française de football. C'est l'incompréhension pour Jean-Noël Buffet.
Si la proposition avait été retenue, l'accès au stade aurait été mieux contrôlé et facilité.
Le préfet de police, clairement dans le viseur de la commission, lors de son audition devant le Sénat le 9 juin dernier. Celui-ci avait reconnu l'échec de la gestion policière lors de cette soirée.
Johan Tritz.
On termine ce journal en musique avec le retour d'une diva.
Beyoncé a annoncé hier son grand retour. 6 ans après son dernier album solo, la chanteuse sortira Acte 1 Renaissance, son nouveau disque, le 29 juillet prochain. Composé de 16 titres, on a donc moins d'un mois et demi d'attente. Voilà.
Renaissance, vous dites ?
Oui.
Allez, macroniste. Beyoncé, vote Macron. C'est l'information de ce journal principal ce matin à 5h09. Merci beaucoup, Alban Le Prince.
On passe aux courses avec Thierry Léger. C'est le pari gagnant sur Europe 1. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses en semi-nocturne sur l'hippodrome de Laval en Mayenne. Et mon pari gagnant sera le 408 Italiano. Déféré pour la première fois des 4 pieds le 5 juin sur l'hippodrome de Saint-Malo, force est de reconnaître qu'il n'a pas fait de détails en s'imposant avec beaucoup d'autorité, n'étant jamais menacé dans la phase finale. À nouveau censé 4 fers aujourd'hui, et aussi à l'aise corde à droite que corde à gauche, sur le sable comme sur l'herbe, il s'annonce vraiment bien difficile à battre. Alors notez bien, pour ce soir à Laval, réunion 1 dans la 4e course, le numéro 8, Italiano.
Merci beaucoup Thierry Léger, et à tout à l'heure, une demi-heure pour les pronostics du Quintet. À tout de suite.
Et Julien Pierce sur Europe 1.
C'est vendredi, bon réveil, place au pressing et avec nous Martin Lange, bonjour.
Bonjour Martin. Bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence comme chaque matin avec vos journaux dont les unes reviennent pour la plupart sur la visite d'Emmanuel Macron en Ukraine. Une visite à haut risque, nous dit le Parisien aujourd'hui en France qui nous propose d'en découvrir les coulisses. L'hommage de l'Europe au courage ukrainien, titre le Figaro qui rappelle que le chef de l'État était accompagné de ses homologues allemands, italiens et roumains. Les visiteurs concluent sobrement Libération dans un clin d'œil. Voilà pour les unes, les principales en tout cas. Omblin, on commence avec vous.
Malmené depuis des décennies, coupé, arraché, décoloré, le poil tient sa revanche chez les jeunes femmes de moins de 25 ans.
Toutes ces bourgeoises qui s'épilent, ça me rate, ça me barre, ça me repile. Je suis l'ennemi public, celui qu'on torture au rasoir vide.
Victime de rasoir bic, de la cire vite, le poil et surtout, nous dit le magazine Elle, aujourd'hui le symbole d'un nouveau conflit intergénérationnel. Mère et fille s'opposent, au hashtag MeToo se succède le hashtag NoShave, le duvet sous les aisselles, la toison qui s'étend de la cheville à l'entrejambe. Tout ça est une question politique, non pas esthétique et encore moins cosmétique. Si une enquête IFOP nous dit que 80% des Françaises s'opposent au poil, les résultats sont moins tranchés chez les jeunes filles qui dénoncent la dictature du glabre. Elle fait donc s'opposer deux générations. Par exemple, Nathalie, 49 ans, et Lysia, 19 ans. « Ma fille me reproche d'être une esclave consentante, que l'épilation est un moyen de contrôle social genré. » Ce à quoi elle répond. La mère, donc, nous sommes très brunes, sous-entendu dans la famille. Elle a des poils partout, en mode yéti, ça fait tellement crasseux. La question qui se pose, en fait, c'est de savoir quel discours une mère peut ou doit tenir. Ôte-moi donc ce pelage de tes mollets, dégage bien ce qui dépasse de ton débardeur, pour ne pas voir sa progéniture victime de moquerie ou de discrimination. Ou alors, ma fille, le corps d'une femme est sacré, cesse de le malmener. Au final, la fille, évidemment, elle fera comme elle veut. À l'image de Manon, 18 ans, qui s'interroge, les mecs sont acceptés au naturel, pourquoi pas nous ? Et selon elle, sa mère a intégré le chemin patriarcal. Alors, pauvre maman, quand même, à qui on ne laisse même pas le bénéfice du doute, il y a quand même des chances que ce soit son choix, hein, de la non-pilosité. Cette mère, justement, Sandra, 51 ans, elle raconte, en parlant de sa fille, depuis un an, elle ne s'épile plus, ce qui ne l'empêche pas de porter des shorts ultra courts. Je trouve ça irrespectueux, impudique, inutilement provoque. Alors, c'est vrai qu'en termes de poils, clairement, elles sont irréconciliables. Ce qu'il faut retenir, peut-être, c'est le discours de Charlotte, 17 ans, où il n'est pas question de diktat masculin. Elle dit « La parole se libère
». On peut marre d'être taxé de tout et oui, n'importe quoi.
On vous met tous sur le dos. Non, ouais. Justement, assumons le choix de garder ses poils sur notre corps. La parole se libère, dit-elle. C'est pareil sur les normes de la beauté. Je n'ai plus envie d'avoir honte de mon corps. Et elle rajoute « C'est trop de souffrance. Liberté, sororité, pilosité, la guerre des poils est déclarée entre mère et fille. » C'est dans le magazine Elle. Photo à l'appui.
C'est un article au poil.
Exactement.
Excellent.
Merci beaucoup, Ombline.
Alors, je regrette qu'il n'y ait pas de photos de messieurs à la Christian Clavier dans Les Bronzés où on voit effectivement la pilosité dépasser du slip de bain.
Ça fera l'objet d'un autre pressing.
On écrira un petit message au magazine.
On va passer au très glabre Martin Lange, à vous.
Ouais,
tout autre sujet, un drôle de voyage ce matin, celui d'une petite grenouille tropicale, une rainette hispaniolienne pour être précis, qui a fait 6000 km à dos de banane avant d'atterrir dans un supermarché. Alors ça se passe à Chine, dans la grande banlieue de Londres, et quelle ne fut pas la surprise de ce client lorsqu'il a déballé son sac de bananes. Il a découvert ce minuscule amphibien, à peine 3 cm de long, quelques grammes.
Elle est toute mignonne.
Elle est toute mignonne. Après le choc, notre mangeur de bananes a contacté les services animaliers. L'animal a été pris en charge par la RSPCA, l'équivalent de la SPA britannique. Elle a été soignée car la pauvre avait une patte cassée, probablement une conséquence de son périple.
Oui, parce que cette rainette hispaniolienne vient de très très loin, Martin.
Oui, comme son nom l'indique, elle vit habituellement sur Hispaniola, une île que vous connaissez bien, la deuxième plus grande des Caraïbes, et qui a la particularité d'abriter deux pays. Haïti et la République Dominicaine. Alors comment a-t-elle atterri dans un supermarché anglais ? Eh bien, elle a sûrement été ramassée alors qu'elle s'agrippait à un régime de bananes. Empaquetée, elle a ensuite fait les 6600 km qui séparent Haïti de l'Europe dans un porte-conteneur avant de finir son voyage sur un étal de supermarché. Une vraie histoire digne d'un dessin animé.
Mais qui n'est malheureusement pas si exceptionnel que ça, Martin.
Oui, ce n'est pas la première fois que ça arrive. En février, il y a à peine 4 mois, c'est une grenouille de Côte d'Ivoire qui s'est retrouvée près de Liverpool. Les Anglais ne sont pas les seuls concernés d'ailleurs. L'année dernière, près de Bordeaux, on a retrouvé une grenouille guadeloupéenne. Mais à la limite, hein, la grenouille, ce n'est pas le pire. En 2015, en Haute-Savoie, le gérant d'un magasin bio s'est retrouvé nez à nez.
Je l'avais appelé.
Avec une araignée banane, hein, une des plus mortelles de la planète.
Une araignée banane ?
Ouais, il faisait pas le fier, le monsieur.
Elle ressemble à quoi ?
Alors, ça, je peux pas vous dire. Peut-être que ça a une forme de banane.
C'est pas très grand, mais c'est très mortel.
C'est ça. Ah oui. C'est une des plus dangereuses du monde. Elle avait embarqué là aussi dans un colis en provenance de la République dominicaine. Alors, si ces rencontres fortuites peuvent faire sourire, hein, elles témoignent surtout d'un drame, la destruction de la biodiversité face à une agriculture de plus en plus intensive. Cette grenouille tropicale a réalisé un voyage de 6000 km à dos de banane. C'est à lire sur le Huffington Post.
Et pardonnez-moi, mais... Ah, l'araignée de banane, elle fait quand même la paume d'une main. Hein, ah, donc,
oui, c'est, non, ouais. Mais voilà, mais c'est pas non plus.
Quand vous ouvrirez votre prochain colis Vinted, ça vous fera drôle.
Voilà. Moi, je veux pas me retrouver une année avec elle. Hein.
Merci, Martin. J'ai choisi pour ma part un article velu du Figaro qui s'intéresse à un concours un peu particulier. Un concours dont la première édition se tiendra en septembre et qui sera présidé par un personnage clé de la majorité. Ex-premier ministre et maire du Havre,
Édouard Philippe,
qui va remettre le prix de l'arrêté municipal le plus insolite. C'est très sérieux. La preuve, c'est un collectif de juristes qui est à la manœuvre, ceux qui tiennent le site, vous le connaissez peut-être, Curiosité Juridique. Nous voulons, disent-ils, inciter les maires des petites communes à écrire cet été les arrêtés municipaux les plus originaux, afin de mettre en valeur leur patrimoine ou de mettre en perspective une problématique rencontrée au niveau local. Voilà ce qu'explique Raphaël Costard, enseignant en droit public et contributeur zélé de ce site qui rencontre un franc succès sur les réseaux sociaux, paraît-il, enfin, en tout cas dans la communauté assez restreinte, j'imagine, des juristes. Tout est parti, ajoute-t-il, de l'arrêté pris par le maire de Châteauneuf-du-Pape qui, en 1954, a interdit aux ovnis de survoler la ville afin de faire connaître son vin dans le monde entier. Depuis, non seulement les bouteilles produites dans les domaines de cet ancien lieu de villégiature des papes d'Avignon se vendent en effet partout sur la planète, mais on n'a jamais vu non plus de soucoupes volantes survoler les vignobles, preuve que l'autorité du maire est respectée jusque sur la planète Mars. Plus proche de nous, il y a cet arrêté du 6 décembre 2019, pris par la maire de la Grêle dans la Loire, arrêté qui interdit aux habitants du village de décéder sur le territoire de la commune. L'affaire avait fait grand bruit, et c'était là l'objectif, évidemment. Alors à l'époque, tous les juristes interrogés sur l'affaire affirmaient que le tribunal administratif ne pouvait pas laisser passer pareil texte aux dispositions dépassant largement les compétences d'une municipalité. Mais contre toute attente, rien ne s'est passé. L'arrêté n'a pas été suspendu pour excès de pouvoir. Il faut donc supposer que les contrevenants s'exposent depuis à des sanctions. Bien sûr, tout cela n'est pas très sérieux. Et l'élu s'est surtout offert pour une simple signature, une jolie publicité politique. Mais en réalité, cet arrêté était surtout un moyen habile d'alerter l'opinion sur le désert médical dans lequel vivent les habitants de ce village, qui ne comptent plus suffisamment de médecins dans les environs pour délivrer des certificats de décès. C'est assez terrible. Dans le même registre, on relève encore en 2016 un arrêté interdisant l'installation de Pokémon sur le territoire de la commune de Bressol. C'est dans l'Ain. C'était une réponse au jeu phénomène Pokémon Go, qui consiste à travers son téléphone à chasser dans la rue des petites créatures japonaises, ce qui n'est pas sans danger. Le jeu serait d'ailleurs à l'origine de 256 décès rien que dans les 150 jours ayant suivi son lancement. A l'inverse, le maire de Châlons en Vendée a signé en 2018 un arrêté pour obliger le soleil à s'installer au-dessus de sa commune du lundi au vendredi, avec pour objectif de redonner du sourire à ses administrés dont le moral est dépendant du taux d'ensoleillement. Attendez, le texte précise également que la pluie est attendu 3 nuits par semaine et pas une de plus. Juste ce qu'il faut pour maintenir le niveau de la nappe phréatique. Voilà ce qui est écrit en toutes lettres sur l'arrêté. Alors le résultat de ce concours sera proclamé le 16 septembre prochain à l'issue de délibération du jury présidé donc par Édouard Philippe, le maire du Havre, qui sera aidé dans sa lourde tâche par plusieurs personnalités telles que les humoristes Nicole Ferroni et Caroline Vigneault. Édouard Philippe va remettre un prix de l'arrêté municipal le plus insolite, c'est-à-dire sur le site du Figaro.
Merci beaucoup Julien, merci Martin, on vous retrouve dans 40 minutes pour le journal des sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, c'était très bien.
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h20 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Pen.
18 millions de personnes sont concernées par une vigilance canicule. Aujourd'hui, 25 départements en orange, 12 en rouge où les écoliers et collégiens peuvent rester chez eux. Emmanuel Macron, accompagné des dirigeants italiens, allemands et roumains, en visite hier à Kiev et Irpin en Ukraine. Tous les quatre ont annoncé soutenir le statut de candidat immédiat à l'Union européenne de l'Ukraine et la soutenir militairement aussi longtemps que nécessaire. Et puis un espion russe démasqué aux Pays-Bas, annonce des services secrets néerlandais. Hier, l'homme devait accéder en tant que stagiaire à la Cour pénale internationale qui enquête notamment sur les crimes de guerre en Ukraine.
Europe 1. Il est 5h20 et comme chaque matin sur Europe 1, à cette heure-ci, on donne la parole à celles et ceux qui s'engagent et font bouger les lignes. Ce sont les initiatives en France.
Bonjour Christophe Rocacera.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le PDG et fondateur de Talano Technologies, une société qui pense à notre santé, puisque vous avez mis au point un système qui capte les particules fines émises par nos voitures. Et surprise, ce n'est pas au niveau du pot d'échappement que ça se passe. Expliquez-nous.
Effectivement, on a développé une technologie donc pour capter les particules qui sont émises par les systèmes de freinage
en sachant qu'aujourd'hui, le système de freinage de votre véhicule est la première source d'émission des microparticules, assez loin d'ailleurs devant le pot d'échappement, puisque vos freins émettent 6 fois plus de particules que votre pot d'échappement.
Il faut rappeler que la pollution aux particules fines provoque la mort de 40 000 personnes en France chaque année. C'est considérable.
Alors, c'est considérable. On parle toujours de mort prématurée, mais il n'y a pas que ça. Il y a également tout un ensemble de pathologies qui sont développées, qui n'entraînent pas forcément la mort directement, comme la maladie d'Alzheimer et de Parkinson, pour lequel on sait que les particules de frein ont un lien.
Parce qu'elles remontent dans le cerveau, c'est ça? Elles se logent dans les cellules?
Oui, malheureusement, on a des particules qui sont ultra fines, dont la taille va descendre jusqu'à 10 nanomètres. Alors, 10 nanos, ça ne parle pas à grand monde. 10 nanos, c'est la taille d'un virus. Donc, elles vont vraiment rentrer extrêmement profondément dans l'organisme. En période de pandémie, tout le monde sait de quoi on parle. Un virus, ce n'est arrêté par aucune barrière, malheureusement, de l'organisme. Et donc, ça va pénétrer très profondément. On les retrouve, là encore, dans les cellules nerveuses, dans les cellules du cerveau, des gens qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson.
Justement, comment vous les captez, ces microparticules? Comment fonctionne votre système?
Le principe est assez simple. En fait, on fait ce que l'on appelle de l'aspiration à la source. On vient loger, en fait, directement dans les plaquettes de frein, un petit aspirateur qui vient aspirer directement là où elles sont émises, ce qui évite qu'elles ne se disséminent.
Et ça capte toutes les poussières, toutes les particules fines? Quel est le taux d'efficacité?
On a en fait des taux d'efficacité qui sont assez élevés, puisque on va jusqu'à 90% des particules émises qui sont captées. Et ce taux, on l'atteint sur des parcours urbains. Alors ça tombe bien parce que c'est là où vous freinez majoritairement et c'est là où il y a des concentrations de population les plus importantes et là où le problème se pose de manière la plus aiguë. Sur certains tests, des performances sur lesquelles on est allé au-delà à 95-97%. Et les particules ultra fines sont pratiquement entièrement absorbées par le système.
Et c'est un système que je peux installer demain sur ma voiture ou il faut qu'elle ait été conçue avec cet équipement?
Alors, il faut qu'elle ait été conçue avec cet équipement. Hein. Le frein, comme vous pouvez l'imaginer, est l'organe majeur de sécurité d'un véhicule, donc on ne peut pas y toucher de cette façon. Donc il faut que ce soit homologué, bien entendu, et garanti par le constructeur. Donc tout ça va s'insérer dans la future norme Euro 7, qui arrivera dans quelques années et qui prendra comme sujet les particules de frein. Il y aura effectivement l'obligation d'avoir des freins qui émettent beaucoup moins à ce moment-là.
Donc, et j'imagine que les constructeurs anticipent cette future norme Euro 7, donc ils sont en discussion avec vous pour éventuellement adapter votre système à leur future voiture?
Pas tous, hein. Certains ont d'autres technologies qu'ils développent, mais on en a plusieurs effectivement avec lesquelles on travaille de manière importante. Ça c'est pour l'automobile et puis l'autre point qui est le ferroviaire, puisque un train ou un métro ça a également des freins à friction et ça émet de la même façon. Donc là on est déjà en test sur la ligne C du RER à Paris, celle qui suit la Seine, et on fait ça en collaboration donc avec la SNCF et la région Île-de-France.
Comment vous est venue cette idée de capter les particules fines des freins de nos véhicules?
C'est un peu du constat d'utilisateur. Moi, je travaillais dans la finance à l'époque et j'avais un véhicule de fonction qui dysfonctionnait, dont le train avant en fait était mal équilibré. Donc, c'était un véhicule qui consommait beaucoup de pneus et beaucoup de freins. Je changeais mes pneus et mes freins tous les 10 000 km à peu près. Donc, la conséquence, c'est que j'avais ces espèces de jantes noires avec cette pellicule noire qui vient se coller, qui sont des particules, en fait. C'est ce que vous ne respirez pas qui vient se coller sur les jantes. Et comme je l'utilisais pour aller chez mes clients, je passais régulièrement à la station de lavage et ça m'énervait parce que je trouvais que c'était complètement aberrant. Et quand j'ai découvert qu'au-delà du problème purement esthétique, il y avait un problème sanitaire et environnemental qui était très sérieux, j'ai décidé en fait de me pencher sur le sujet, de prendre contact avec des équipes de recherche, de recruter des ingés et de développer la techno qui est aujourd'hui protégée par 27 brevets qu'on dépose dans une douzaine de pays dans le monde.
Eh bien, on vous souhaite beaucoup de succès. En tout cas, merci beaucoup, Christophe Rocacera, d'avoir été en ligne avec nous ce matin et d'avoir trouvé cette solution pour capter les particules fines émises par les freins de nos voitures, mais aussi de nos trains. On espère qu'elle sera rapidement mise en place. Je rappelle le nom de votre société, Talano Technologies. Bonne journée et à bientôt.
Merci, très belle journée à vous. Au revoir.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Bonjour à vous, bon réveil, merci d'avoir choisi Europe 1. Dans un instant, le journal de 5h30 de Christophe Lamarre, où l'on ira notamment en Nouvelle-Aquitaine, où 7 départements de la région Nouvelle-Aquitaine vont basculer en vigilance rouge canicule. Et puis juste après, on va s'intéresser aux journées européennes de l'archéologie qui ont lieu dès aujourd'hui et ce tout le week-end.
Oui, mettre au jour des vestiges de la Grande Guerre, découvrir à quoi ressemblaient des villes, les paysages d'autrefois, déterrer un silex. Des chantiers de fouilles, des laboratoires, des musées ouvrent leurs portes pour présenter tous les métiers de l'archéologie, cette science des choses anciennes. On en parle dans un quart d'heure avec Dominique Garcia, qui est le président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Et je précise que c'est pour les enfants surtout, c'est vachement intéressant.
C'est noté. Et puis musique à 6h10 avec Stéphanie Loire.
We Need to Talk About It, c'est le nouveau single de Ben Harper, en attendant l'album qui paraîtra le 22 juillet.
Ça, c'est pour les grands enfants. La météo, Anissa Haddadi, ce vendredi et ce samedi vont être deux journées historiquement chaudes.
Et oui, ça va être très très chaud. Nous allons
chaud en régie surtout. Hein.
Nous allons battre des records aujourd'hui et demain, une chose est sûre. Alors pour que l'on se rende compte de ce qui se passe, ce qui est en train de se passer à Nîmes aujourd'hui, on va avoir 41 degrés. Il devrait en faire le même jour, le 17 juin, 26 degrés. À Lille, il fera 33 degrés, exactement comme à Marrakech. C'est effectivement aujourd'hui et demain que nous allons vivre les journées les plus chaudes de cette vague caniculaire, avec 12 départements vigilance rouge canicule, je vous les rappelle, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Landes, Gironde, Charente, Charente-Maritime, Vienne, Deux-Sèvres, Vendée et Gers. Soyez très prudents, 25 autres départements sont toujours placés en vigilance orange entre le sud-ouest et les Pays de la Loire jusqu'à la vallée du Rhône. Dans le ciel, pas grand-chose à signaler à part un soleil radieux. Les températures, 29 à Dunkerque, 30 à Nice, 32 à Marseille, 34 pour Aurillac, 35 à Paris, 37 à Rennes, 38 pour Angoulême, 40 à Castres et 41 à Nîmes sous abri. Vous imaginez qu'en plein soleil, il fera bien plus chaud.
Merci Anissa Haddadi. Excellent réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Et à la une de ce vendredi, la grande réconciliation, poignée de main symbolique entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky à l'occasion de la visite du président français en Ukraine. Paris décide de renforcer son aide militaire à Kiev. La campagne pour les élections législatives, la question du pouvoir d'achat reste centrale. Reportage dans la 8e circonscription de la Moselle où un candidat de la NUPES est opposé à un représentant du Rassemblement national. Enfin, McDonald's accepte de payer plus d'un milliard d'euros d'amende au fisc français pour échapper aux poursuites pénales.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. On efface tout et on recommence. L'avenir dira si la visite d'Emmanuel Macron à Kiev a permis de dissiper tous les malentendus. Le chef de l'État n'était pas venu seul, il était accompagné du chancelier allemand, du président du conseil italien et du président roumain. Première décision, les quatre dirigeants européens accordent à l'Ukraine le statut de candidate immédiate à une adhésion à l'Europe. Paris s'engage par ailleurs à augmenter son effort militaire. La France va livrer 6 canons César supplémentaires pour un total de 18 pièces d'artillerie. L'effort est important, William Molinier.
Oui, parce que l'armée de terre disposait de 76 canons César. En 4 mois, ce stock aura donc fondu de près de 25%, un effort conséquent. Donc, surtout quand on sait que le délai de fabrication d'un canon César est aujourd'hui d'un an et demi environ. À 5 millions d'euros pièce, l'enveloppe totale de cette aide militaire est donc portée à 90 millions d'euros, ce qui reste 13 ans de ça, évidemment, de l'aide américaine. Dans l'urgence, Washington a annoncé avant-hier avoir débloqué 1 milliard d'euros des pièces d'artillerie, des obus et des missiles anti-navires. Outre l'objectif d'user les Russes dans le Donbass, l'OTAN veut renforcer l'armée ukrainienne sur le flanc maritime. Selon nos informations, une réflexion a été ouverte entre Paris et Kiev sur une éventuelle livraison de batteries de missiles sol-mer. Mais pour l'instant, les systèmes français ne sont pas compatibles avec ceux des Ukrainiens. L'idée est de pouvoir rapidement sécuriser l'accès au port d'Odessa pour permettre les exportations de céréales, en dépit des mines qui dérivent et de la marine russe qui, depuis les côtes de Crimée, pourrait menacer les navires marchands.
William Molinier, le président français qui a réagi hier soir sur TF1 aux critiques de l'opposition sur son déplacement en Ukraine à 3 jours des législatives. Cette visite avait aussi pour but de protéger notre pays, a-t-il expliqué. L'augmentation des prix de l'essence et du gaz sont liées au conflit et aux choix faits par la Russie.
La campagne pour les élections législatives, justement, le pouvoir d'achat reste un angle d'attaque pour les candidats.
Campagne qui prend fin officiellement ce soir à minuit. Dernier meeting et dernière sortie sur les marchés pour convaincre les électeurs. Exemple à Vaillanges dans la 8e circonscription de la Moselle où se jouera un duel entre le Rassemblement National et la NUPES. La question du pouvoir d'achat est en effet sur toutes les lèvres. Reportage Victor Chabert.
Sur le marché de l'ancienne cité ouvrière d'Ayange, la NUPES et le RN se partagent le territoire. Une question préoccupe les électeurs, le pouvoir d'achat. Céline Léger, candidate de la gauche unie, fait face à cette problématique systématiquement.
J'ai 250 euros pour vivre.
Ouais. Et c'est pour ça que je me bats. En mettant quelqu'un comme moi qui est assistante sociale depuis 20 ans et qui milite également à gauche pour une vie digne.
Parfois les esprits s'échauffent quand les militants opposés se croisent. Pourtant, ils partagent la même histoire.
Mon père, il était mineur. Qu'est-ce que vous y étiez, vous, dans la vie?
J'ai été essentiel.
Laurent Jacobelli, candidat et porte-parole du RN, a lui aussi centré sa campagne sur le porte-monnaie.
Ici, le sujet numéro un hein, des conversations et ce de quoi les gens me parlent, c'est le pouvoir d'achat.
À quelques mètres, cette électrice RN raconte la raison de son vote.
J'ai 1000 euros actuellement. Quand j'ai tout payé, il me reste 50 euros. On vit tout le mois avec 50 euros. Et Macron, il fait quoi? On n'a plus rien.
Dans la cité des industrialisés d'Ayange, ce sont les fins de mois difficiles qui motivent le choix des électeurs. Que ce soit au RN ou à la NUPES, personne ne s'autorise à des pronostics de victoire. Seule certitude, ce sont les classes populaires qui ont la clé du scrutin.
Un reportage Victor Chabert et selon un dernier sondage Odoxa pour le Figaro, ensemble, la coalition présidentielle n'est pas sûre d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée. Les projections lui donnent entre 252 et 292 sièges contre 179 à 225 sièges pour la NUPES qui deviendrait le premier parti d'opposition. Et toujours selon cette enquête, 70% des Français ne souhaitent pas qu'Emmanuel Macron dispose d'une majorité absolue.
Majorité absolue qui est à 289 sièges plus 1. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi la canicule. 37 départements sont désormais sous vigilance.
Vigilance rouge pour 12 d'entre eux même, soit l'alerte maximale dans le sud-ouest et le long de la façade atlantique. Dans ces départements, les élèves d'écoles primaires et de collèges pourront rester chez eux aujourd'hui. La chaleur va s'intensifier encore, aujourd'hui encore avec des températures qui pourront dépasser les 40 degrés localement. En Gironde, la préfète Fabienne Bussiaux a décidé d'interdire toutes les manifestations publiques à partir de 14h.
Il y a d'abord une mesure qui est l'interdiction des manifestations extérieures, qu'elles soient sportives, culturelles ou autres. Je dis bien les manifestations publiques. Hein. Il n'est pas question à des gens qui ont prévu de se marier qu'on les interdit de se marier. Également, manifestations publiques interdites dans des locaux, salles polyvalentes ou ce genre de choses qui ne seraient pas climatisées. Et également, interdiction des feux d'artifice. Bon, chacun comprendra très bien pourquoi.
Et puis, c'est une journée particulière. Le samedi 18 juin, il y avait des commémorations qui étaient prévues.
Eh bien, une commémoration, c'est une manifestation publique. Alors certes, c'est un événement très important pour la France, mais chacun comprendra que, compte tenu des conditions, il est plus prudent, compte tenu aussi qu'on a un public qui est plutôt âgé. Ces manifestations, à la diligence des maires, hein, pourront être reportées, notamment le dimanche, et à une heure plus fraîche.
La préfète de Gironde, Fabienne Bussiaux, au micro de Stéphane Place. Dans le Tarn, la retransmission sur écran géant de la demi-finale du top 14 entre Castres et Toulouse est annulée. Autre décision, la deuxième étape cycliste de la route d'Occitanie est délocalisée. Localisé en Aveyron et ramené à 36 km au lieu de 154.
Payé pour ne pas risquer les foudres de la justice, c'est le choix qu'a fait McDo. L'entreprise va verser plus d'1 milliard d'euros au fisc français.
Le groupe est soupçonné de tricherie comptable. En clair, il aurait minimisé artificiellement ses bénéfices pendant 11 ans, entre 2009 et 2020. McDo va donc signer un chèque d'1 milliard 200 millions d'euros à l'administration.
Ça fait beaucoup de Big Mac. Hein.
Ça fait quand même beaucoup de Big Mac et c'est surtout la plus grosse amende de l'histoire fiscale, Julien. Un accord qui permet aux du fast-food d'éviter un procès, Carole Ferry.
Exactement, grâce à une convention mise en place en 2018 et qui permet à une entreprise d'accepter de payer une amende plutôt que de passer par la case justice. McDonald's était dans le viseur du parquet financier depuis 2016 pour des fonds transférés vers les Pays-Bas et le Luxembourg. Une opération légale, sauf que le fisc a estimé que les montants étaient bien trop élevés, injustifié et qu'il permettait surtout au groupe d'échapper à l'impôt en France. Alors McDonald's n'a pas plaidé coupable pour autant, il continue à défendre la légalité de ses opérations, mais a tout de même choisi de payer plutôt que d'entrer dans un bras de fer pour gagner du temps, selon l'avocat fiscaliste Jacques-Henri de Bourmont.
Comme les grands groupes n'ont aucune envie d'avoir une condamnation pénale, c'est les pousse à signer ce type d'accord. Pour une histoire d'image, mais c'est aussi pour une histoire d'accès à un certain nombre de marchés, hein, marché public notamment, on vous demande un quitus fiscal. Donc c'est très très important d'éviter ces condamnations pénales pour des montants en tout cas très significatifs.
Et une nouvelle bataille attend désormais McDonald's. La CGT veut demander réparation pour les salariés qui n'ont de fait pas perçu de participation
aux bénéfices.
Carole Ferry, chef du service économie d'Europe 1. Deux mots de sport. Première demi-finale du top 14 de rugby ce soir. Castres affronte Nice à 21h à l'Alliance Riviera de Nice. Et puis en basket.
Donc affronte Toulouse.
Affronte Toulouse, voilà, à l'Alliance Riviera de Nice.
Voilà.
Correction apportée, merci Julien. Et puis en basket, la NBA, les Golden State Warriors, sacrés champions NBA pour la 7e fois de leur histoire. Ils viennent de battre Boston en finale, 103 à 90.
Voilà,
grâce notamment à un extraordinaire Stephen Curry qui a encore
lui
scoré 34 points.
Ouais, à 3 points. Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses. Les pronostics du Quintet, Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, direction Laval pour ce Quintet qui va se courir en nocturne. 13 partants et non 14 comme initialement prévu. Le numéro 8 ayant déclaré forfait avec un favori solide, Ghostbuster, le numéro 11, revenu quasiment à son meilleur niveau après 5 mois d'absence et il n'aura certainement pas besoin d'être à 100% de ses moyens pour pouvoir ici l'emporter. L'opposition sera constituée par les numéros 9, Garou Pierre J, et 12, Golden Vizet, qui viennent de faire jeu égal avec mon favori Ghostbuster le 5 juin sur l'hippodrome de Saint-Malo. Et sur la foi de cette bonne performance, ces deux-là méritent aussi un très large crédit. Ensuite, je vous recommande Fademi, le numéro 14, une jument en plein épanouissement qui reste sur 2 victoires en province et dont les limites actuelles restent à déterminer, avec Galon de Vire, le numéro 4, à ne surtout pas condamner sur ses 4 dernières sorties en demi-teinte qui ne reflètent en aucun cas ce qu'il réalise actuellement le matin à l'entraînement. Enfin, les numéros 6, Fée du Vernet, 10, Far West du Ribe et 7, Gitane du Bois, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 11, 9, 12, 14, 4, 6, 10 et 7.
Merci beaucoup Thierry Léger. Vos pronostics sont à retrouver sur europe1.fr.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu.
C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où, à présent, les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Il y a 63 ans, le 18 juin 1959, Brigitte Bardot se mariait. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Mariage, on va dire étonnant, Laure, puisque la toute jeune actrice s'est mariée dans le plus grand secret.
Oui, et avant cela, 3 mois plus tôt, en mars 59, un agriculteur normand fait une déclaration d'amour à Brigitte Bardot sur Europe numéro 1.
Monsieur Gaston Lacaille, je crois que vous avez un message à nous communiquer.
Oui, je m'adresse à Brigitte Bardot. Je lui renouvelle mes sentiments. Je désire épouser Brigitte Bardot. Je pense qu'elle est en très bonne santé. Je lui recommande de ne pas trop se fatiguer dans sa vie mondaine.
Nous sommes faits l'un pour l'autre, confie cet agriculteur. Elle est une sainte et je suis un saint. Mais 3 mois plus tard, on apprend donc que Brigitte Bardot, âgée de 24 ans, s'est mariée dans le plus grand secret, semble-t-il à Saint-Tropez, avec l'acteur Jacques Charrier. Les voisins de Brigitte Bardot eux-mêmes n'en savent rien.
Mademoiselle, est-ce que vous pouvez me dire si Mademoiselle Bardot s'est mariée ?
Elle s'est mariée ?
Oui.
Ce sont des bruits qui courent avec insistance et qui sont peut-être justifiés.
Voilà, mais un journaliste d'Europe numéro 1 est alors à Saint-Tropez et a pu récupérer quelques informations.
Oui, le journaliste Jacques Médecin a vu entrer la mère de Brigitte Bardot dans une maison à Saint-Tropez et il lui a demandé si un mariage était bientôt prévu.
Elle a paru fort étonnée et m'a déclaré tout de go, mais vous savez, Brigitte et Jacques sont mariés. Ils se sont mariés très exactement le 5 juin.
On apprend le lendemain que Brigitte Bardot s'est mariée, oui, mais pas à Saint-Tropez, en région parisienne, à Louveciennes. Les jeunes mariés ont demandé à ce que tout se passe dans l'intimité et la mère de Brigitte Bardot était chargée de brouiller les pistes auprès des journalistes. Julien Besançon, journaliste d'Europe 1, va mener l'enquête, lui, auprès d'une employée de la mairie de Louveciennes.
Et dites-moi, vous avez pu voir les mariés, vous avez vu comment était vêtue Brigitte Bardot ?
Ben oui, je l'ai aperçue.
Comment était-elle ?
Et je vous dis, elle était en robe de vichy rose et blanc.
Et Jacques Charrier ?
Jacques Charrier en gris, mais je vous dis, je n'ai pas regardé lui.
Vous n'avez pas regardé, vous avez regardé seulement Brigitte Bardot.
Regardez seulement Brigitte Bardot.
Brigitte Bardot en robe Vichy rose et blanche. Alors pour que le secret demeure, les bans n'avaient pas été publiés à la mairie de Louveciennes. Et quelques mois plus tard, naîtra Nicolas, le fils de Jacques Charrier et de Brigitte Bardot.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. C'était le jour où, à suivre sur Europe 1, les journées européennes de l'archéologie.
Omblin Roche et Julien Pierce
Votre matinale info sur Europe 1.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Il est 5h43 sur Europe 1 et on s'intéresse à présent aux journées européennes de l'archéologie qui débutent dès aujourd'hui et se poursuivront tout le week-end. Votre invité Omblin est le président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive.
Bonjour Dominique Garcia.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes également archéologue et historien. Ces journées européennes de l'archéologie nous plongent dans les coulisses de cette vaste discipline scientifique, l'occasion de présenter des professions pleines de mystères, hein, archéologues, mais aussi topographes, anthropologues ou archéozoologues. Pour cela, donc, vous ouvrez des lieux de fouilles, des laboratoires ce week-end ?
Oui, c'est du mystère, mais c'est aussi de la proximité. Donc, pendant 3 jours, le 17, le 18 et le 19 juin, ce sont les journées européennes de l'archéologie que l'INRAP met en œuvre sous l'égide du ministère de la Culture. Et donc, l'ensemble des citoyens pourront, très près de chez eux, rencontrer des archéologues et surtout voir des sites archéologiques ouverts exceptionnellement, rentrer dans des centres de recherche, participer aussi parfois à des événements festifs, des festins, des dégustations, des restitutions archéologiques. Il y a près de 900 lieux comme ça en France où on aura rendez-vous directement avec l'archéologie près de chez soi, dans les musées, mais je vous disais également en plein air, dans les centres de recherche, les lieux où se fait l'archéologie sur tout le territoire aujourd'hui.
C'est évident, mais précisons-le quand même, ces journées européennes de l'archéologie s'adressent à tous, hein, passionnés, novices, aux grands, mais également aux petits, aux enfants.
Oui. Alors, dès hier, on a eu des rencontres avec des enfants, parce qu'il y avait des programmes qui étaient animés en lien avec les collèges et les lycées, parce que l'archéologie, voilà, on a tous, quand on était petits, rêvé à un moment donné d'être pompier ou archéologue, et on s'est tous penchés sur des ossements, sur des objets. Donc, c'est une activité vivante et qui plaît aux enfants. Comme aux adultes, c'est une science du rêve, donc il y a effectivement des ateliers qui sont offerts aux enfants, notamment dans ce qu'on appelle des villages de l'archéologie, qui sont donc des salons que l'on ouvre un petit peu partout en France. Il y aura des villages tout ce week-end à Marseille, à Saint-Germain-en-Laye, à Paris, au musée de l'armée, en Corse, à Mâcon, donc des endroits où les adultes peuvent rentrer en contact avec des archéologues, bénéficier de la connaissance qu'ont ces archéologues de l'histoire du secteur, mais pour les enfants, participer à des ateliers, s'initier à l'archéologie, jouer aux archéologues.
Alors il n'y a pas que des eaux enfouies de dinosaures, la recherche de silex préhistorique ou des pyramides d'Égypte. Hein, l'archéologie, c'est aussi la recherche de vestiges de la Grande Guerre, par exemple, donc assez proche de nous dans le temps.
Ah bah oui, bah l'archéologie, c'est notre histoire, c'est tout ce qui a bâti les paysages et le pays que nous occupons aujourd'hui. Donc ça va des premiers hommes après les dinosaures en fait, hein. Dès l'occupation, des occupations humaines, des hommes qui ont côtoyé les mammouths, de ceux qui ont dessiné les grottes, mais ça va aussi au 19e, au 20e siècle, effectivement les traces de la première ou de la deuxième guerre mondiale, donc notre pays garde les stigmates sur les frontières orientales ou en bordure de l'Atlantique ou de la Manche ou dans le nord de la France. Et là aussi, les archéologues essaient de documenter tout ce qui n'est pas dit par les images, tout ce qui n'est pas dit par les textes. Donc, il y a une archéologie aujourd'hui de la période contemporaine. Mmh. Et on pourra voir également en ville. Donc, voilà, pour les gens qui iront à Blois, eh bien, ils verront des fouilles archéologiques qui livrent des vestiges du Moyen-Âge, mais également de la période moderne et contemporaine. Quoi. Sous notre bitume commence l'histoire et les archéologues arrivent à la partager.
Et juste à côté de chez nous, alors cela va mieux en le disant, mais votre mission, Dominique Garcia, c'est sauver notre patrimoine, qu'il soit lointain ou plus récent.
Oui, voilà, c'est ça. Bah, l'INRAP notamment et nos collègues des collectivités territoriales, on fouille chaque année tous les sites qui sont mis en danger par l'aménagement. C'est-à-dire on intervient avant les travaux d'aménagement, les maisons, les routes, les ronds-points, et on sauve ces vestiges archéologiques en les étudiant, en enrichissant les musées nationaux, les musées régionaux. Et donc, en fin de compte, c'est un patrimoine dont l'ensemble de la collectivité s'approprie et ensuite qui est présenté dans des collections publiques au gré de l'aménagement. Donc plus notre pays se modifie, plus il évolue, plus on connaît son histoire partout près de chez nous.
Aujourd'hui, l'archéologue est plus un scientifique de laboratoire équipé d'ordinateurs qu'un aventurier ?
Alors, il ça lui plaît de dire qu'il est un peu aventurier. En fin de compte, c'est un aventurier qui sait aujourd'hui s'entourer. Donc, sur un chantier, on a des spécialistes des eaux, des spécialistes des pollens, mais on a aussi des gens qui manient des drones, qui regardent à partir des lidars, donc qui font des analyses aéroportées. Donc, aujourd'hui, effectivement, un chantier de fouille, c'est un lieu de découverte, mais c'est aussi un laboratoire à ciel ouvert, un endroit où des chercheurs s'interrogent sur notre passé, sur les sociétés passées et sur la manière dont elles ont modifié le paysage dont nous sommes aujourd'hui les héritiers.
Dominique Garcia, qu'est-ce qu'il reste encore à explorer ?
Il y a beaucoup de choses. Déjà, la plupart de nos bourgs, de nos villes, dans les maisons qu'on occupe en centre-ville, on sait très peu ce qu'il y a dessous. Voilà, le Paris romain reste encore à dégager largement. Idem pour Lyon ou pour Marseille, dont on connaît peu de choses. Mais il y a aussi les océans. La France domine le deuxième espace maritime mondial. Et donc là aussi, aujourd'hui, la mise en place des câbles sous-marins, des éoliennes, des zones de panneaux photovoltaïques, implique des découvertes archéologiques, entraîne les archéologues à aller explorer les espaces sous-marins. Donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir sous les forêts, sous nos routes, sous nos maisons et sous l'eau. Donc des perspectives de recherche. Et c'est peut-être ce qu'il y a de magique pendant ces 3 jours des Journées européennes de l'archéologie, c'est qu'on voit apparaître à la lumière des objets, des sites qui n'avaient jusqu'à présent jamais été révélés au public. Ce ne sont pas des sites sanctuarisés, ce sont des sites nouvellement acquis, nouvellement présentés.
Et vous nous les présenterez donc lors de ces Journées européennes de l'archéologie, aujourd'hui, demain et dimanche. Hein, on le répète, merci beaucoup Dominique Garcia d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Merci,
merci
bonne journée.
Merci beaucoup, à bientôt.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 6h10 sur Europe 1. Très bon réveil à tous. Le journal permanent, Alban Le Prince.
12 départements en vigilance rouge canicule. Aujourd'hui, la 4e fois qu'elle est activée depuis celle de 2003 qui avait fait 15 000 morts. Conséquence, les écoliers et collégiens peuvent rester chez eux ce matin. 25 départements sont également en orange. Et face à cet épisode, Brigitte Bourguignon, la ministre de la Santé, sera dans la Vienne à partir de 9h30 ce matin. En Ukraine, visite historique hier d'Emmanuel Macron et des dirigeants allemands, italiens et roumains. Ils ont notamment annoncé soutenir le statut de candidat immédiat à l'Union européenne de l'Ukraine. La Commission européenne se prononcera sur l'octroi ou non de ce statut aujourd'hui à 13h. Et puis les Warriors, sacrés pour la 7e fois champions de NBA ce matin, ils se sont imposés 103-90 à Boston, grâce notamment à Stephen Curry, auteur de 34 points, désigné meilleur joueur de la finale.
Allez, place à la musique.
Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour à tous, bonjour Ambline et bonjour Julien.
Bonjour Stéphanie. Alors vous commencez par une actualité qui concerne la chanteuse canadienne Alanis Morissette.
Oui, Alanis Morissette est en pleine tournée en Europe. Elle a d'ailleurs donné un grand concert. C'était hier à l'Accor Arena à Paris. Elle va ensuite poursuivre cette tournée en Amérique du Nord pour célébrer un anniversaire. Les 25 ans de son album phare Jagged Little Pill, qui contient ce tube ironique sur lequel on a tous un jour chanté en yaourt. It's like rain. Morissette fête un quart de siècle de ce disque qui est son 3e album studio sorti le 13 juin 1995. Un album qui marque un tournant dans la carrière de l'artiste avec des textes très introspectifs qui expriment sa colère. L'opus atteint la première place des classements de vente d'albums dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. Et il se vend, écoutez bien, à plus de 33 millions d'exemplaires dans le monde. Aujourd'hui, après s'être essayé à la comédie musicale à Broadway, la compositrice interprète explore un nouveau territoire sonore, la musique de méditation. Alanis Morissette publie ce matin The Storm Before the Calm, un album de méditation guidée. Alors n'y cherchez pas la voix de la chanteuse, vous n'y entendrez que des percussions hypnotiques. Attention, si vous êtes au volant, ne vous endormez pas.
Stéphanie, vous nous parlez aussi de Ben Harper ce matin.
Le musicien Ben Harper, lauréat de 3 Grammy Awards, fait lui aussi partie du club des artistes qui célèbrent des décennies de carrière. 30 ans pour le guitariste, chanteur, compositeur et producteur. En 1992, alors que le grunge envahit la planète, un guitariste encore inconnu décide de revenir aux racines du blues américain. Premier carton en France, notamment avec Weeping Boy, un titre où le riff se cache comme souvent avec Harper dans l'introduction. 3 décennies plus tard, le titre n'a pas pris une ride. Well, you can... Ben Harper vient de publier un nouveau single, We Need to Talk About It. Ce titre, propulsé par sa guitare funky, enrobée de chœurs gospel, aborde les blessures de l'esclavage. Et comme on aime beaucoup la guitare funky de Ben Harper, on l'écoutera en entier dans quelques instants. We Need to Talk, produit par Ben Harper lui-même, est le premier extrait de Bloodline Maintenance, l'album très attendu de l'artiste californien, dont la sortie est prévue le 22 juillet.
Merci beaucoup Stéphanie Loire et on se quitte donc en musique avec ce single de Ben Harper, We Need to Talk About It sur Europe 1.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant la météo, le journal et une radiographie.
Oui, une enquête passionnante sur tous ceux qui ont choisi de se taire face aux urnes et ils sont nombreux, plus d'un électeur sur deux n'est pas allé voter dimanche dernier au premier tour des législatives. Nouveau record, un de plus qui soulève de nombreuses questions, à commencer par le profil de ces abstentionnistes. Qui sont-ils? Des jeunes peu diplômés, à faible revenu, vivant principalement en banlieue, ça c'est ce qu'on nous ressort au lendemain de chaque élection. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité. L'abstention a de multiples visages, de multiples explications également, que va nous détailler notre invité dans une dizaine de minutes, Laurence Denervaux, la directrice du think tank Destin Commun, à l'origine de cette enquête. Et puis ensuite, Omblin, on écoutera votre partition.
C'est un repère artistique majeur dans l'histoire de la pop culture. La sortie de l'album Ziggy Stardust de David Bowie, il fête ses 50 ans. Ziggy Stardust, la partition dans 20 minutes.
Anissa Haddadi, qui est encore loin de la cinquantaine, toutes les villes sont aujourd'hui concernées par cette chaleur étouffante.
Oui, personne n'est épargné. En effet, il va faire chaud, très chaud, très très chaud partout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est donc le premier jour des deux journées les plus chaudes de cet épisode caniculaire. Demain, ça sera encore pire. 12 départements sont placés en vigilance rouge. La Vendée, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, la Haute-Garonne et le Gers. Il va faire très chaud. Ça va être étouffant chez vous. 25 autres départements en vigilance orange. Ça va du sud-ouest à la vallée du Rhône et jusqu'au pays de la Loire. Grande prudence, pic de pollution, risque accru d'incendie et surtout le fameux coup de chaud. Les élèves aujourd'hui, hein, primaire et collège, sont autorisés à ne pas aller à l'école dans les départements placés en vigilance rouge.
Et j'ajoute qu'en Ile-de-France, la vitesse est abaissée de 10 km/h.
Pour la pollution, effectivement. Pour continuer la série des comparaisons, 34 degrés aujourd'hui à Brest, c'est exactement la température que nous aurons à Phoenix, en Arizona. 32 pour Sochaux, 33 à Lille et Caen, 35 à Paris, 39 pour Bordeaux et 41 à Nîmes attendu.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1. Excellent début de journée à tous. Nous sommes le vendredi 17 juin. Il est 6h. Tout faire pour éviter le drame de 2003. Nos seniors en première ligne face à la canicule qui s'intensifie aujourd'hui. Dans un instant, nous irons en Haute-Garonne où les communes se mobilisent face à l'alerte maximale. L'Ukraine pourra-t-elle devenir candidate à l'Union européenne? Le pays attend le feu vert de la Commission. Une demande appuyée par Emmanuel Macron en déplacement à Kiev hier. Et puis, à la fin du journal, retour sur le scandale du Watergate, 17 juin 1972. 50 ans après, cette affaire a laissé des traces dans la société américaine.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le journal de 6h, c'est avec Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Un tiers de la France, 18 millions de personnes asphyxiées par la canicule. 37 départements sont sous surveillance, une douzaine en vigilance rouge à partir de 14h aujourd'hui. Un état d'alerte maximal en cas de danger pour la population.
Et ce n'est que la quatrième fois qu'elle est activée depuis 2003, année de sa création, après une canicule historique, on s'en souvient, 15 000 morts, essentiellement des personnes âgées.
Oui, les plus fragiles d'entre nous. Alors désormais, les communes confrontées à la canicule doivent déclencher un plan d'action spécifique pour nos seniors. Des appels quotidiens par exemple. Notre correspondant Benjamin Péter s'est rendu au centre d'action sociale de Muret en Haute-Garonne.
Bonjour, c'est le CCAS de Muret. Je vous appelle dans le cadre de la canicule.
Cindy travaille au centre communal d'action sociale. Elle appelle Alexandre, 79 ans, pour s'assurer qu'il va bien.
Tout va bien, j'ai fermé mes volets, voilà.
Vous êtes au frais ? Ventilateur.
Oui, oui, un ventilateur.
Cindy consigne toutes les réponses. Y a-t-il de l'eau à disposition ? Des proches peuvent-ils rendre une visite régulière ? Pour Françoise, 84 ans, c'est un dispositif qui tranquillise.
C'est la première année que je le fais parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de santé. Donc je me suis dit, il faut quand même prendre des précautions. Ça rassure parce que je sais que si je ne réponds pas, on va s'adresser ailleurs, quoi.
Une soixantaine de personnes sont inscrites sur ce registre communal et sont appelées quotidiennement. Mais pour Céline Giacomelli, la directrice adjointe du CCAS, c'est tout le pôle social qui est mobilisé.
Nous avons des aides à domicile qui interviennent à domicile. Nous avons également du portage de repas. Le livreur, tous les jours, peut s'assurer du bien-être de la personne. Nous avons vraiment une vigilance sur à peu près 300 personnes.
Et si ce dispositif concerne les personnes âgées, ils invitent aussi les familles qui pourraient être en difficulté à les contacter pour leur prodiguer des conseils ou leur indiquer les points d'eau ou les salles municipales climatisées. À Muret, Benjamin Péter, Europe 1.
Et puis à noter qu'en Nouvelle-Aquitaine, région où se concentre la vigilance rouge, la préfecture a interdit toutes les manifestations prévues à l'extérieur à partir de 14h et jusqu'à la fin de l'épisode de canicule.
6h passées de 2 minutes sur Europe 1. L'Ukraine suspendue au verdict de la Commission européenne. L'institution rend son avis aujourd'hui sur la candidature du pays au sein de l'UE.
Un processus long, complexe, mais soutenu hier par Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi, tous les trois en visite à Kiev. Un statut de pays candidat qui dépend aussi du feu vert de chacun des pays de l'Union européenne, réunis en conseil la semaine prochaine.
Autre annonce forte hier, la livraison de 6 canons César français supplémentaires pour l'Ukraine.
Un effort considérable d'ailleurs pour l'armée française qui se sépare d'un quart de ses stocks. Promesse confirmée sur TF1 hier par Emmanuel Macron lors d'un entretien enregistré à Kiev.
Nous avons pris des engagements qui étaient des engagements que nous pouvions tenir. Depuis le début de la guerre, nous avons pris des engagements et nous avons livré la donnée des équipements défensifs puis offensifs. Et en particulier, ces canons César, plusieurs fois d'ailleurs salués par les Ukrainiens. Pourquoi ils sont importants ? D'abord parce que c'est la meilleure technologie au monde sur ce modèle d'artillerie. Et ensuite parce que ça permet, dans une guerre de contact, comme c'est le cas au Donbass, bien de pouvoir atteindre les lignes ennemies sans trop s'exposer soi-même. Vous savez, il faut aussi savoir raison garder. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir livrer le maximum de ce qui est demandé, sur quoi les Ukrainiennes et les Ukrainiens sont formés, qui correspond justement aux demandes de ces dirigeants. Le président Zelensky m'a demandé 18 Césars. Nous en avons livré 12. Les 6 derniers arriveront.
Emmanuel Macron à Kiev hier soir, premier déplacement du président en Ukraine depuis le début du conflit.
Un déplacement taxé de coups politiques par l'opposition à 2 jours du second tour des législatives.
Et d'ailleurs, la campagne s'achève ce soir. Dernières heures pour convaincre. Elles ne seront pas de trop pour Clément Beaune en difficulté dans la 7e circonscription de Paris. Au premier tour, le ministre chargé de l'Europe est arrivé derrière son adversaire de la NUPES. Hier, Arthur Delaborde était sur un marché parisien où les deux candidats se sont rencontrés par hasard.
Votez et faites voter. Chaque voix compte.
L'heure est aux dernières distributions de tracts pour Caroline Mécari. En misant sur sa campagne de terrain, l'avocate compte bien battre Clément Beaune, le monsieur Europe d'Emmanuel Macron.
C'est ça qui est important, c'est d'être en proximité. Et j'ai en face de moi un ministre candidat qui, s'il était élu, n'irait jamais à l'Assemblée nationale. C'est sa suppléante qui va y être. Donc j'ai en réalité en face de moi l'Élysée. C'est un peu le combat de David contre Goliath.
Et quand David rencontre Goliath de manière fortuite sur le marché Bastille, l'ambiance est quelque peu tendue.
Vous allez bien ? Ouais, ça va bien.
On fasse un petit débat ?
Non, on va pas faire un débat là, de façon impromptue.
On se reprend rendez-vous alors.
Mais oui, c'est de la provocation.
Moi je veux un débat, il a été refusé par elle, peut-être qu'elle avait des contraintes d'agenda. Je vois pas où était la provocation à aller saluer de manière républicaine. On peut avoir des adversaires politiques et se serrer la main.
Clément Beaune, un peu moins tendre lorsqu'il s'agit de décrire son adversaire aux électeurs qu'il rencontre.
C'est une dame de la France Insoumise, très très radicale. Ouais, bien France Insoumise.
La révolution ?
Ouais, je sais pas, mais enfin, qui manie l'insulte assez facilement.
Combativité et enthousiasme, voilà les deux mots d'ordre du ministre de l'Europe avant de jouer dimanche sa survie au gouvernement.
Arthur Delaborde, 6h05, c'est l'un des scandales politiques les plus retentissants de l'histoire des États-Unis. 17 juin 1972, il y a 50 ans, jour pour jour, le scandale du Watergate éclate.
Oui, cette nuit-là, 5 hommes sont arrêtés en essayant de s'introduire dans les locaux du Parti démocrate à Washington. Un cambriolage raté et surtout le début d'une affaire d'État.
Et d'une enquête aussi menée par Bob Woodward et Carl Bernstein, icônes du journalisme d'investigation. 2 ans plus tard, le président Richard Nixon démissionne. Alexis Guieux, vous êtes notre correspondant correspondant aux États-Unis, un pays marqué encore aujourd'hui par cette affaire.
Oui, car ce scandale du Watergate a durablement miné la relation entre le peuple américain et ses élus. Dan Ball s'encadre la couverture de ce 50e anniversaire pour le Washington Post.
Avec le Watergate et la guerre du Vietnam, les Américains sont passés d'une période où ils faisaient généralement confiance au gouvernement et aux élus à une période où ils ne leur faisaient plus confiance. Cette confiance n'est jamais vraiment revenue à ce qu'elle était avant le Watergate.
Alors le Watergate, c'est aussi l'affirmation de la puissance de la presse américaine. Le travail d'enquête de Bob Woodward et Carl Bernstein aboutit à l'émergence de cellules d'investigation dans tous les grands médias aux États-Unis. Mais une affaire de ce type déboucherait-elle aujourd'hui sur les mêmes conséquences ? Dan Ball, sans doute, au regard des années Trump à la Maison-Blanche, émaillé de nombreux scandales.
Pendant le Watergate, le système a fonctionné. Des personnes sont allées en prison, des républicains ont rompu avec le président et leur parti, et Nixon a démissionné. Trump, lui, a fait l'objet de deux mises en accusation, et il a été acquitté dans les deux cas grâce à des votes partisans.
La faute à la polarisation extrême de la société américaine et à un parti républicain plus que jamais fidèle à son leader.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, un pays qui compte d'ailleurs, on peut le dire, les meilleurs groupes de musique de la planète. Je parle sous votre contrôle, Omblin. Eux, justement, font partie de cette liste. Et devinez quoi ? Ils sont de passage en Loire-Atlantique.
J'aurais dû attendre le 17 juin pour avoir de la bonne musique à la fin de ce journal.
Exactement,
quand même, hein.
Alors je sais voilà, que vous en avez bavé musicalement parlant cette année, donc j'essaye de me rattraper. Vous voyez, vous soulignez l'effort quand même. Ouais. Donc, on entend les Guns N' Roses qui sont bien sûr à l'affiche du festival Hellfest à Clisson. Ça commence ce soir pour deux week-ends jusqu'au 26 juin. Alors, il y a aussi Metallica, Scorpion, 350 groupes, 500 000 spectateurs pour cette fête du rock et du métal. Oui.
C'est donc sur un super solo qu'on vous quitte, Roman Hockey. Merci beaucoup, à tout à l'heure.
Il est 6h08, le journal des sports à présent avec vous, Martin Lange. Et c'est l'information de la nuit, Martin. En basket, les Golden State Warriors remportent le titre NBA.
Oui, l'équipe de San Francisco remporte le 7e titre de son histoire, le 4e en 8 ans, porté par un Stephen Curry monumental et élu meilleur joueur de la finale. Les Warriors ont écarté les Boston Celtics, 4 victoires à 2, la dernière arrachée cette nuit sur le parquet de Boston. Et chez nous, qui imitera les Warriors ? Match 2 de la finale de la Betclic Elite ce soir. L'Asvel doit se reprendre sous peine d'hypothéquer ses chances. Monaco ayant remporté la première manche mercredi dernier.
Rugby, le dénouement est proche aussi pour le top 14.
Oui, demi-finale du championnat de France ce week-end avec dès ce soir un derby. Castres face à Toulouse, le champion de France en titre. Toulousain aura fort à faire face à des Castrais au nom peut-être moins ronflant, mais qui ont terminé premier de la saison régulière. D'ailleurs, le capitaine toulousain, Julien Marchand, ne veut pas du statut de favori.
Castres finit premier de la saison. Franchement, ils ont fait une très belle saison. Nous, sincèrement, on se met pas favoris. On a fini moins bien que eux. Donc voilà, Castres, ça reste quand même une très belle équipe. Et sincèrement, on les respecte énormément.
Julien Marchand, micro européen de Cédric Chasseur. L'autre demi-finale opposera, elle, Bordeaux à Montpellier demain soir.
Un mot d'escrime à présent, Martin.
Oui, avec le début des championnats d'Europe en Turquie à Antalya, première grande compétition depuis les Jeux. Les Bleus espèrent surfer sur leur beau bilan à Tokyo, 5 médailles. Mais l'épéiste Anita Blaz regrette toujours le faible engouement pour son sport.
Beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes veulent faire de l'escrime sur le coup parce qu'ils voient ça à la télé et ils se disent « Ah ouais, c'est fantastique, c'est beau. » Il commence en septembre, mais d'ici l'année d'après, il n'y a plus personne. C'est vraiment dommage.
Aujourd'hui en piste, les fleurettistes femmes et les sabreurs.
Dans le reste de l'actualité sportive.
Du foot, et Jocelyn Gourvennec n'est plus l'entraîneur de Lille. Le Breton et le LOSC ont entériné leur séparation hier d'un commun accord. C'est le Portugais Paulo Fonseca qui devrait lui succéder. Enfin, un mot de cyclisme, retour gagnant pour Arnaud Démare. Après son Giro réussi, le Picard s'impose sur la première étape de la route d'Occitanie. Aujourd'hui, deuxième étape largement amputée. Seulement 36 km à cause de la canicule.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Qui sont les abstentionnistes ? C'est 52% d'électeurs qui ont boudé les urnes dimanche dernier. C'est la question que s'est posée notre invité dans une minute, Laurence de Nerveau, la directrice du think tank Destin Commun. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Il est 6h11, votre invité Julien est la directrice du laboratoire d'idées Destin Commun.
Bonjour Laurence de Nerveau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin à l'avant-veille du second tour des législatives, élection qui a mobilisé moins d'un électeur sur deux dimanche dernier. Nouveau record d'abstention, un de plus.
En fait, c'est un peu comme les canicules. Hein. Elles se renforcent d'année en année et sont en train de devenir la norme. On s'y habitue. Et bien justement, pour nous aider à mieux comprendre les ressorts de ce phénomène, vous vous êtes plongé avec Raphaël Yorca de la Fondation Jean Jaurès dans la tête des abstentionnistes. Hein, c'est le titre de votre enquête. Qu'est-ce que vous y avez trouvé ?
Alors effectivement, on a souhaité dépasser ce gros chiffre, ce pourcentage qu'on entend et qu'on oublie peut-être un petit peu vite parce qu'on s'y habitue. Et on a été frappé par le fait que ces gens eux-mêmes nous disent « moi aussi j'ai l'impression de n'être qu'un numéro ». Une femme nous a dit « c'est comme quand on va à la boucherie ou à la CAF, on prend son numéro et c'est tout ». Et en fait, ce qu'on a trouvé, une multiplicité de réponses, de raisons de cette abstention, parce que bien évidemment, quand on est à plus de la moitié du corps électoral, ça ne peut pas être une raison unique ni un profil unique. Et aussi une très profonde lassitude, une très profonde frustration qu'on a souhaité décrypter, analyser.
Est-ce qu'il faut nuancer le profil type de l'abstentionniste que les instituts de sondage nous rabâchent à chaque soirée électorale, c'est-à-dire un jeune pas très diplômé qui habite en banlieue avec des faibles revenus ?
Oui, comme je disais, quand on est à ce niveau, à ce volume, ça ne peut pas être uniquement ce portrait robot. Et donc nous, en fait, on a entendu, écouté pendant 12 heures au total, les abstentionnistes qui sont dans différentes familles de valeurs et d'opinions, et un petit peu dans tous les profils.
Aussi, ouais.
Oui, tout à fait. Certains qui étaient ce qu'on a appelé des primo-abstenants, qui s'abstenaient pour la première fois. D'autres pour lesquels c'est une habitude et qui ont dit même « j'ai déchiré ma carte électorale ». Donc là, on est dans une cassure beaucoup plus profonde. Et surtout, en fait, le point commun entre tous ces gens-là, je pense, c'est qu'ils sont dans ce qu'on a appelé, nous, une nouvelle équation de la contestation qui combine une très profonde incertitude, c'est-à-dire l'avenir est bouché, l'horizon est bouché, je ne vois pas où je vais. Un sentiment de complexité au quotidien, la complexité administrative, mais la complexité du monde plus largement, un manque de lisibilité. Mmh. Et puis un sentiment d'impuissance, je n'ai plus de prise sur ma vie.
C'était exactement ce que j'allais vous dire, un sentiment d'impuissance face à des problèmes de plus en plus complexes. Moi, ce qui m'a étonné à la lecture, c'est que certaines des personnes que vous avez interrogées vous disent « j'ai pas voté au présidentiel, mais j'irai aux législatives ». En fait, on est abstentionniste un peu à la carte ?
Alors effectivement, on s'est demandé avec Raphaël Yorca s'il y avait ce qu'on a appelé des trappes à abstention, comme on parle parfois de trappes à pauvreté. En fait, on sait aujourd'hui qu'on a un peu de... C'est pas abstention un jour, abstention toujours. On a de l'abstention intermittente. Et ce qui nous a frappé, c'est que là, entre les présidentielles et les législatives, un certain nombre de personnes disaient « bah oui, peut-être je voterai aux législatives. Pourquoi ? Parce que c'est au niveau local qu'on peut changer les choses, je les cite. » Mais là,
sauf que c'est une élection nationale.
On comprend qu'il y a quelque chose de problématique dans le sens où les gens ont l'illusion que les députés seraient des élus locaux.
Donc il y a un problème de compréhension aussi du schéma politique actuel.
Effectivement, ça fait partie des sujets sur lesquels il y a un besoin de pédagogie qui est immense.
Donc si je schématise, pour résumer, les abstentionnistes sont toutes ces personnes qui ont le sentiment d'être des pions, pour en revenir à ce que vous disait cette dame, dans un grand jeu un peu au ressort fatigué et aux règles toujours plus complexes.
Il y a un peu de ça, mais après, toutes les raisons qu'on a identifiées, donc on a appelé ça la perte de foi, le fossé, la déconnexion des politiques, l'éthos aussi, la critique de la politique spectacle, de l'agressivité, et enfin les freins administratifs. On pourrait se dire tout ça, en fait, c'est des choses que les personnes qui votent peuvent critiquer aussi
ouais.
Partagent aussi. Alors pourquoi est-ce que ces personnes sont dans une lassitude encore plus grande ? Justement,
Qu'est-ce qui fait la bascule ?
C'est lié justement à ce sentiment d'incertitude très profond qu'ils ressentent à titre individuel, et aussi à une très très profonde défiance, ça on l'a énormément entendu, qui est liée aussi à cette complexité et à ce manque de visibilité. Donc en réponse à ça, je pense qu'il faut justement travailler sur comment est-ce qu'on rend l'action publique plus lisible.
On va y venir.
D'accord.
Défiance ou indifférence, ou les deux ?
Les deux. Et c'est alors quand même au niveau général, ça fait partie des clichés peut-être qu'on a été amené à relativiser. Les abstentionnistes dans leur ensemble ne sont pas dans une indifférence totale vis-à-vis de la politique.
C'est l'une des bonnes nouvelles de votre enquête.
Oui,
c'est que vous avez réussi à parler politique, ça a animé en fait les discussions avec ces personnes.
Tout à fait, tout à fait. Ils ont des opinions, ils sont informés, ils sont dans les sujets. Pour la plupart, après on le dit, quand on est sur un volume tel, ça ne peut pas être tout le monde pareil. Il y a aussi de l'indifférence pour certains, mais surtout de la défiance. C'est vraiment ça qui est très très marqué.
Les personnes qui sont dans l'indifférence, vous les décrivez comme des personnes qui se rabattent sur un cocon quasi nucléaire, c'est-à-dire leurs proches, et ça ne va pas au-delà ?
Oui, il y a des sociologues qui ont parlé de civilisation du cocon. On les interrogeait en général sur leurs préoccupations. C'est toujours les sujets du très proche, de l'intime et du quotidien. Ce sont mes enfants, ma santé, ma sécurité et mon pouvoir d'achat, bien évidemment.
L'autre bonne nouvelle, entre guillemets, de votre enquête, c'est que les abstentionnistes sont eux aussi sensibles à l'environnement, le climat. Et vous dites même que l'écologie pourrait, à terme, les ramener vers les urnes.
Effectivement, on a souhaité comprendre en fait comment ces personnes se positionnaient sur un des défis majeurs de notre époque. La bonne nouvelle, c'est qu'ils y sont tout aussi sensibles que la moyenne des Français. Après, effectivement, ça peut être un vecteur de réengagement, mais il y a des conditions, il y a des freins à lever, il y a des blocages. Alors d'abord, le fait qu'ils sont très irrités, là aussi, par un sentiment d'impuissance face à une offre qui ne correspondrait pas à leurs aspirations écologiques. Ils ont beaucoup parlé, par exemple, du suremballage. En tant que consommateur, je me sens tributaire de l'offre. Et également, un sentiment d'impuissance...
Et de la faiblesse de la réponse politique, aussi.
Oui, tout à fait, tout à fait. Ils ont beaucoup parlé des lobbies. La critique du manque d'exemplarité aussi des politiques et du manque de cohérence qui est revenu souvent. Et là,
le jet privé pour aller voter à Prades, par exemple.
C'est ça, ça c'était un exemple très récent, mais on a relevé aussi une persistance rétinienne assez frappante d'exemples parfois qui datent d'il y a 15 ans et qui marquent encore. Donc ça, évidemment, c'est un sujet sur lequel il faut être vigilant.
Laurence de Nervaux, vu l'ampleur que prend désormais l'abstention à chaque élection, on l'a rappelé au début de l'entretien, plus d'un électeur sur deux pour le premier tour dimanche dernier, on comprend que c'est tout le système politico-médiatique qu'il faut refonder, en fait.
Alors, il y a effectivement, parfois on parle, quand on parle des réponses à l'abstention, on parle de réponses un petit peu cosmétiques ou court-termistes. Bien sûr, il faut lever un certain nombre de freins administratifs, mais ce n'est pas ça, effectivement, les enjeux de fond. Il faut travailler sur cette crise de confiance dans la politique, mais aussi dans les médias. Et nous, on a identifié un certain nombre de leviers. La question de la pédagogie de l'action publique qui doit être faite beaucoup plus à un niveau intermédiaire entre le micro et le macro, pour donner de la lisibilité. L'éducation, bien évidemment aussi, qui ne doit pas... Alors, quand on a parlé, si vous voulez, citoyenneté, éducation civique, les gens nous disaient oui, c'est ne pas jeter les papiers par terre. Ça, c'est un petit peu désolant. Oui. C'est le degré zéro de la citoyenneté. Il faut absolument repenser une éducation à la démocratie qui intègre une éducation aux médias, et à l'image aussi. Ça nous semble fondamental.
Ça m'a interpellé, c'est ce que certaines des personnes que vous avez interrogées vous disent, c'est qu'elles se sentent totalement perdues face à une offre qu'elles jugent pléthorique, voire inutile pour beaucoup de canaux de communication.
C'est ça. Et d'ailleurs, il y avait un parallèle assez intéressant entre ce qu'on appelait ce vertige du trop dans les médias, mais aussi dans la politique. Les gens qui nous disent 12 candidats, en fait, je me suis perdue. Et il y a un sentiment de défiance aussi là, parce qu'on a l'impression qu'on veut nous perdre. Même chose dans les médias. Et ça, on sait parfois, ça crée même une volonté de couper. Ça a été le cas notamment après le Covid. Un certain nombre de personnes, aussi, c'est aussi lié au caractère anxiogène parfois de l'information. On dit je coupe, je ne regarde plus la télévision, de la même façon qu'on pourrait dire j'arrête la cigarette, en fait, parce que je sens que c'est devenu toxique pour moi.
Vous proposez également, et ce sera ma dernière question, qu'on simplifie les démarches administratives. Par exemple, que quand on déménage, et ça arrive très souvent à plein de Français, l'inscription pour les listes électorales se fasse automatiquement.
Oui, il faut le faire. C'est un frein administratif qu'on peut lever, donc pourquoi s'en priver ? Et c'est pas anecdotique, parce que c'est 3 millions de Français qui déménagent chaque année, donc si on multiplie par les 5 années d'un quinquennat, ça fait 15 millions de personnes. Donc bien sûr qu'il faut le faire.
Merci beaucoup Laurence de Nervaux, directrice du laboratoire d'idées Destin Commun, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Excellente journée à vous.
Merci.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
À 6h19, les titres, Alban Le Prince.
Dernier jour de campagne pour les législatives aujourd'hui, avant le second tour dimanche. NUPES, Macronie et Rassemblement National jettent leur dernière force dans la bataille. Elisabeth Borne, première ministre, sera dans sa circonscription du Calvados. Marine Le Pen dans la sienne du Pas-de-Calais. Jean-Luc Mélenchon avec Julien Bayou donneront une conférence de presse dans la matinée. Nouvelle journée de canicule avec des températures qui continuent de grimper. 12 départements passeront en vigilance rouge à partir de 14h, où les écoliers et collégiens pourront rester chez eux. Aujourd'hui, 25 autres départements sont en orange. À Castres, conséquence de cette chaleur, la retransmission ce soir sur écran géant de la demi-finale en rugby du top 14 est annulée. Elle opposera le champion en titre Toulouse à Castres. Coup d'envoi à Nice à 21h05.
On conclut avec votre partition, Ombline. Il y a 50 ans, David Bowie créait de toutes pièces un double fictif, son alter ego, un certain Ziggy Stardust.
Un personnage charismatique pour pallier ses manques, apaiser ses angoisses. David Bowie n'a pas confiance en lui et les années qu'il vient de passer à chercher une voix, une personnalité et le succès ne l'ont pas franchement rassuré. Voyez son travestissement comme une carapace bienfaitrice. David Bowie disparaît derrière Ziggy Stardust, un héros de science-fiction entouré d'araignées fraîchement débarquées de la planète Mars.
Tells us not to blow it, 'cause he knows.
après Space Oddity et le Major Tom perdu dans l'espace, bienvenue à la Rockstar intergalactique dont la mission est de transmettre un message aux humains.
Et oui, Ziggy Stardust vient nous prévenir qu'il ne nous reste plus que 5 ans à vivre avant la fin du monde. Vous l'avez compris, ce n'est pas la première fois que David Bowie partage avec nous sa fascination pour l'immensité du cosmos.
La transformation du chanteur britannique est d'abord physique.
Des cheveux orange dressés sur le haut du crâne et agrémentés d'une coupe mulet, un maquillage en forme d'éclair, un costume en argent et des bottes blanches. Mais Ziggy Stardust n'est pas uniquement ce personnage androgyne. Il est aussi la figure centrale du cinquième album de David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
L'enregistrement de l'album commence le 8 novembre 1971 à Londres.
Dans les studios Trident, après 2 semaines de répétition avec ses musiciens, ses Spiders, il va le boucler en à peine une dizaine de jours. L'ingénieur du son Ken Scott confie au magazine Rolling Stone que le disque n'est certes pas parfait, mais que, et je le cite, « dans ce que vous entendez dans Ziggy Stardust, il n'y a ni traficotage, ni autotune, il y a juste un magnétophone multipiste et David Bowie. Si Ziggy Stardust est présenté comme un album concept, il n'y a pourtant aucune suite chronologique des titres.
C'est à la télévision que le public britannique fait la connaissance de cet avatar, Ziggy Stardust.
Oui, le 6 juillet 1972, un mois donc après la sortie de l'album, première apparition publique dans la sacro-sainte émission de la chaîne anglaise BBC One, Top of the Pops, cheveux longs colorés, combinaison moulante et talons de 10 cm, David Bowie, ou plutôt Ziggy Stardust, et ses Spiders assument leur féminité et leur anticonformisme. Sans doute pour créer le buzz, quelques semaines avant, David Bowie avait déclaré dans la revue musicale Melody Maker « Je suis homosexuel et je l'ai toujours été ».
L'homme étoile prend toute sa dimension en live, il s'apprête d'ailleurs à partir en tournée.
Oui, grâce à l'album et son interprétation très théâtrale sur scène, David Bowie obtient enfin ce qu'il cherche depuis 5 ans, une reconnaissance solide et durable.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan.
David Bowie en Ziggy Stardust, ce double qui lui a apporté la consécration n'aura finalement vécu qu'une seule année. En juillet 1973, le chanteur le tue en plein concert à Londres en annonçant à la surprise générale « C'est le dernier show de la tournée et le dernier que je ne ferai jamais. Merci beaucoup. » L'album « The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars » célèbre ses 50 ans avec la sortie aujourd'hui d'une réédition en format vinyle.
Merci beaucoup Ombline. Vous restez avec nous dans un instant. La matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.
Europe Matin.
6h27, excellente matinée ce vendredi avec Europe 1.
Et bon week-end, on vous donne rendez-vous lundi à partir de 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Ombline.
Bonjour.